Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 57 du podcast. C'est un peu spécial en ce moment, on le sait tous. Hein, en fait, ce que j'espère, c'est qu'il y a des gens qui écoutent le podcast en 2021, puis ils font comme de quoi ils parlent avec son histoire de quarantaine, puis de suggestions de lecture. En fait, j'espère que c'est ça qui se passe, c'est éventuellement ça qui va se passer. Donc, il faut regarder vers l'avant, puis il faut voir toutes les bonnes choses possibles et inimaginables que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est comme je disais à certaines personnes, il y a des gens à une époque qui ont vécu deux gars en kaki qui cognent à la porte, puis ils annoncent à votre arrière-grand-mère que les deux jeunes hommes qui sont assis dans le salon en ce moment là, ou qui sont en train de travailler dans la ferme en arrière, ben on les amène avec nous autres, ils vont aller se faire tirer dans la tête sur une plage en Normandie, puis vous les reverrez jamais. Puis là, ben leur cousin qui apprend que ça s'en vient, qui reste deux rues plus loin, ben lui, sa seule solution, c'est de se couper un pied ou un morceau de bras pour pas se faire conscrire de force. Donc, faut relativiser pour voir que les choses, dans le fond, regarde, c'est pas drôle là, ce qui se passe en ce moment avec le COVID-19, avec le coronavirus, mais regarde, c'est faut passer par là, puis tout le monde fait ce qu'il peut, puis tout le monde essaye de s'arranger du mieux possible. Donc, pas de panique, pas d'hystérie collective, pas rien d'anormal, là, que, tu sais, soyez calme, soyez tranquille, puis c'est surtout si vous avez c'est pas mon but, c'est vraiment pas de vous faire la morale, là. Les gens font selon leur âme et conscience, mais tu sais, je pense que c'est le temps d'écouter pour une fois ce que disent les autorités sanitaires, là. C'est pas nécessairement juste le gouvernement, là. C'est les experts au niveau médical. Donc, lavez-vous les mains, puis évitez les rassemblements, puis ce genre de choses-là. Bref, je répéterai pas tout ce que tout le monde dit, mais c'est ça. Puis j'espère que ce podcast-là va pouvoir être encore utile quand tous ces problèmes-là vont être derrière nous autres. Puis dans le fond, tu sais, les suggestions que je vous donne aujourd'hui, ça pourrait être aussi j'aurais pu appeler ça 5 livres pour partir dans le bois ou 5 livres pour une fin de semaine au chalet ou pour une semaine de vacances ou whatever. J'ai appelé ça 5 livres pour une quarantaine parce que je trouvais que c'est ce qui avait le plus de sens pour le moment. Puis dans le fond, c'est ça. Là, je vous j'ai décidé de faire ça parce que ça change un peu l'ambiance, puis c'est de quoi de, je veux dire, je comprends qu'il y en a qui vivent avec des enfants et n'ont pas nécessairement le temps, mais quand les enfants sont couchés, c'est bon d'arrêter de brasser du noir dans notre tête, puis de s'évader un peu dans l'imaginaire. Donc c'est bon de le faire avec Netflix, c'est le bon de le faire avec Amazon Prime, c'est le bon de le faire avec n'importe quoi, et c'est bon aussi de le faire par la lecture, pourquoi pas. Donc je vais tout de suite avec un premier choix. Regarde, c'est un podcast un peu improvisé aujourd'hui, je savais même pas que j'allais en faire un. J'ai scrappé mon sujet de base que je voulais faire, donc j'y vais vraiment freestyle, puis c'est ça, j'ai zéro préparation contrairement à d'habitude où j'ai 50 000 sujets de préparer, puis j'ai des notes, puis j'ai plein d'affaires. Donc là, ça va être un peu en mode freestyle, puis regarde, je pense que c'est bien correct de même. Donc mon premier choix de lecture, si vous voulez vraiment vous évader, partir dans un monde ailleurs, Dan Brown, La forteresse digitale. Dan Brown, c'est un peu devenu un classique de la littérature. C'est ceux qui enseignent la littérature, là, lancez-moi pas une brique dans le front si jamais vous me croisez. Je le sais que c'est pas Molière ni Shakespeare, là, on s'entend. Mais depuis, disons, le milieu des années 2000 ou la fin des années 2000, Dan Brown, c'est devenu un best-seller de toutes sortes de livres. Moi, j'adore mon préféré, c'est son premier livre. Donc, je, comme tout le monde, j'ai aimé le bout avec Robert Langdon, puis la paléo-anthropologie, puis toute la patente, là, la cryptographie, puis la symbole, je sais pas trop comment on appelle ça, là, mais la science de l'étude des symboles, puis symbologie, je pense pas que c'est ça le vrai mot, là, mais bref. J'ai aimé ça, j'ai aimé, je les ai presque tous lus, là, en fait, à part le dernier. J'ai aimé... J'ai aimé le code Da Vinci, évidemment, comme tout le monde, mais j'ai aimé aussi celui d'avant là, qui se passe au Vatican, dont j'oublie le titre. Mais Forteresse Digitale, c'est un petit livre. Regarde, c'est sorti, ceux qui le lisent en anglais, c'est sorti en 98 aux États-Unis et en Angleterre. C'est sorti, je pense, un an ou deux plus tard. Laissez-moi juste vérifier pendant que je vous parle. J'ai ça quelque part dans le début du livre, dans les notes, je l'ai en avant de moi. Là. C'est un livre que j'ai lu il y a quand même quelques années de tout ça, donc c'est pas super frais. Donc c'est ça, 98, ça a été traduit directement quand ça a été fait. Puis c'est le premier livre de Dan Brown, à mon avis, c'est paradoxalement, c'est peut-être un des moins connus, mais pour moi, c'est un des meilleurs. Donc ça met en scène une fille qui travaille pour la National Security Agency, là, la NSA aux États-Unis. Puis là, elle se trouve face à une espèce de programme, une espèce de problème un peu sans précédent. Là. Donc, il y a un super ordinateur qui s'appelle Translator qui casse tous les codes de cryptographie à l'échelle mondiale, donc les courriels cryptés. Ça fait penser un peu à toute l'histoire qu'il y a eu alentour d'Hillary Clinton puis de la fuite des emails aux États-Unis pendant la campagne de 2015-2016, tout ça, 2016, début 2016, fin 2015. Puis c'est ça, toute l'histoire se passe alentour de cette histoire-là de super ordinateur qui fait de la cryptographie qui décrypte des codes jusqu'à temps que finalement à un moment donné on apprend dans le roman qu'il y a après 15 heures de travail, le super ordinateur est toujours incapable de casser un code qu'on appelle le code incassable. Donc c'est ça le principe de la forteresse digitale, c'est qu'il y aura un code qui serait incassable par un super ordinateur. Donc on peut penser à des patentes d'ordinateur quantique, ces choses-là. Il y a plusieurs personnages dans le livre qui sont intéressants, donc c'est assez différent des autres livres de Brown, pardon, parce que justement, comme je l'ai dit, il n'y a pas Robert Langdon qui est là, il n'y a pas nécessairement toujours une espèce de fille qui est en amour subtilement avec, mais pas tant que ça. Donc c'est un livre qui est super intéressant. Ça met le personnage principal est une femme, donc Suzanne Fletcher. Le deuxième personnage principal, c'est David Baker, qui est le directeur du département des langues modernes à l'université de Georgetown. Donc lui, dans le livre, il y a un rôle à jouer là-dedans. On a le directeur des opérations de la NSA, qui est un personnage important aussi. Il y a peut-être, je dirais, une quinzaine de personnages là, dans le livre, là, mais qui sont d'une moindre importance là-dedans. C'est drôle aussi parce qu'il y a le personnage d'un journaliste québécois, Pierre Clouchard, là, qui est très drôle. Il aurait pu prendre au moins un nom qui existe, là. Clouchard, je sais pas si ça existe. Ça existe vraiment. Donc c'est tout alentour ceux qui trippent sur la programmation informatique, le décryptage, l'encodage, toutes ces affaires-là. Ça me surprend d'ailleurs que ça ait pas fait un film, Forteresse en tout cas. À ma connaissance, ça a pas fait de film parce que c'est vraiment un livre extraordinaire. Puis c'est mon premier choix de lecture pour ceux qui ont du temps à passer puis qui savent pas quoi faire pour l'instant. J'imagine que ça existe en livre audio. Ça existe là, ça se trouve facilement en livre de poche si vous pouvez mettre la main là-dessus, sinon peut-être ça doit s'acheter en e-book, j'imagine. Mon deuxième livre, c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être un an environ quand c'est sorti, puis je l'ai passé à ma blonde qui l'a dévoré aussi. C'est le livre de Christian Page sur les théories du complot. Donc ça fait un peu la thématique avec ce qui se passe en ce moment. Il y a plein de gens qui essaient de tirer des histoires un peu farfelu sur tout ce qui se passe en ce moment dans le monde alentour du virus. Je pense que ça peut peut-être justement vous aider à calmer certaines... Moi, je pourrais dire ça peut vous aider à relativiser un peu. Donc, tout y passe là-dedans dans ce livre-là. Donc, c'est le livre, s'appelle Christian Page, l'enquêteur des théories du complot. Dessus, la couverture, le livre est vert. Dessus, on voit son visage. Donc, d'habitude, Christian Page est plus dans les trucs paranormal, mais là, on est... tout y passe là-dedans. Donc, l'assassinat de John F. Kennedy, les chemtrails, dont Madame l'ancienne blonde de PKP, là, comment elle s'appelait, Lucie Laurier, a déjà fait des tweets disant qu'elle croyait à ça. MK Ultra, dans le fond, le projet, il n'est pas question de nier que le projet existait. MK Ultra, c'est vraiment un projet qui a déjà existé, mais c'est... C'est plutôt voir qu'est-ce qui était de vrai là-dedans. Les extraterrestres, on y a un chapitre aussi sur les extraterrestres là-dedans. Donc c'est intéressant. On parle de toute l'histoire de Roswell, les ovnis, UFO, toutes ces patentes-là. Donc ça, c'est un chapitre moi qui m'a vraiment intéressé. Il y a aussi un chapitre sur les anomalies spatiales qui est pas mon préféré, mais qui est intéressant aussi. Une des plus célèbres théories du complot, l'histoire de la Lune. Donc, est-ce que Armstrong a vraiment mis le pied sur la Lune? L'histoire du drapeau, est-ce qu'il y avait une tige en métal dans le drapeau? Le vaisseau, c'est un vrai. Tout y passe là-dedans, ça va vous fasciner. Il y a aussi l'histoire de la conspiration nazie comme truc là-dedans. Ça, c'est vraiment fucked up. Là. C'est un peu. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est des gens qui disent que les nazis se sont sauvés, puis ont fait une base en Antarctique, puis ils ont continué comme à dominer le monde de par là-bas. Ils ne classeraient pas vraiment mort. D'un autre côté, t'as les Russes qui faisaient à croire qu'il y avait le crâne d'Hitler avec le trou de balle dedans, alors que. Supposément que le corps a été enterré par j'oublie le nom du gars, mais c'est un gars qui était dans le bunker avec Hitler quand lui et sa femme se sont tirés une balle dans la tête puis se sont empoisonnés au cyanure, si je me trompe pas, pour être sûr de mourir. Ils ont sorti les corps dehors puis ils ont creusé un trou puis je pense qu'ils ont ils ont essayé de les incendier pendant que les Russes commençaient à arriver avec les alliés aux portes de la ville de Berlin. Donc c'est un chapitre vraiment vraiment intéressant. Je pense que ça va ça devrait vous intéresser. Autre cas évidemment assez typique des théories de conspiration, toute l'histoire alentour des Illuminati, le nouvel ordre mondial, le fameux papier, le fameux dollar américain avec la pyramide avec un œil qui est un symbole maçonnique d'ailleurs, qui est pas une patente Illuminati, mais bref, il y a tout un chapitre là-dessus qui est super intéressant. Ce qui est le fun aussi, c'est le style d'écriture de page. Donc ceux qui connaissent sa chronique, ses chroniques qu'il fait à la radio, donc il en fait un peu partout, il en fait à Montréal, il en fait à Québec avec Yann Marceau, il en fait partout. Je pense même qu'il y a un podcast de Christian Page. Donc moi, c'est quelqu'un que un jour j'aimerais avoir comme invité dans le podcast quand toutes les choses se seront calmées. C'est ça, donc ce chapitre-là, moi je pense que c'est un de mes préférés. Ensuite, il y a le chapitre sur le 11 septembre 2001, toutes les histoires de la tour est pas vraiment tombée, il y avait un hologramme, Al-Qaïda, c'est pas vrai, Saddam Hussein non plus, puis pas Saddam Hussein, mais Ben Laden, les pilotes, savaient pas piloter, ils ont-tu retrouvé un passeport à terre alors que l'avion avait explosé, t'sais, toutes ces histoires-là, je pense que ça devrait vous intéresser grandement. Et le dernier chapitre, c'est sur les satanistes, donc toute la patente alentour de la secte de Anton Levy, toutes ces patentes-là. Donc c'est vraiment un chapitre aussi qui est intéressant. Je connaissais moins les histoires de complot alentour des satanistes, mais bref, ça me surprend pas tellement. Là. Ça fait un peu penser à toute l'histoire dans les années 70, 80, surtout 80, avec genre les gens qui disaient qu'il y avait des messages codés si tu faisais jouer les vinyles des Beatles ou de Black Sabbath à l'envers. Là. Puis finalement, l'histoire de certains rockers poursuivis en cours parce que des jeunes s'étaient suicidés en écoutant leurs chansons, puis des affaires dans même à cause de messages subliminales, puis tout l'imaginaire du satanisme qui entoure l'univers de la musique. Et puis, dernière chose à propos de ce livre-là, c'est un livre qui est extrêmement bien sourcé. Donc, il y a au-dessus de 400 notes de bas de page avec ça réfère à des documents précis, des livres précis. Donc c'est un travail de moine là, que Page a fait là-dessus, mais d'ailleurs Page est un passionné. Puis si vous n'êtes pas capable d'avoir accès aux livres parce que vous êtes en quarantaine ou whatever, ben il y a toujours la possibilité d'écouter un peu le contenu de tout ce livre-là dans les podcasts. Vous pouvez trouver ça sur le net, là. Vous cherchez Christian Page, vous allez trouver des audios partout, ceux qui le connaissent pas. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, puis ça vous permet un peu de mettre un peu de l'eau dans le vin dans tout ce qu'on entend par rapport à toutes sortes de sujets, de complots, de toutes sortes de patentes. Donc, je pense que ça fascine l'être humain, hein, tout le monde est un peu attiré par ça. Hein, on se rend compte que, bon, des fois, les médias, les gouvernements nous disent pas toujours ce qu'on pense qui est vrai, puis, tu sais, c'est quoi l'équilibre un peu à travers tout ça. Donc, c'est un livre qui est très bien fait, pas aucune hystérie, aucun sujet est prêt à la légère. Donc, c'est un livre qui est très intéressant pour ça. Troisième livre que j'ai envie de vous suggérer, c'est un classique. Pour moi, c'est le classique des classiques. Écoutez, simplement, Le Seigneur des Anneaux. Si vous avez jamais lu Le Seigneur des Anneaux, c'est le moment ou jamais. Si vous n'avez pas accès au livre, la bonne nouvelle, c'est que les films se trouvent partout, sur Internet, en DVD, si vous avez encore ça, Blu-ray. C'est le temps ou jamais de regarder cet univers-là. Tolkien est un génie. Il a même inventé des langues dans ce livre-là. Il y a tout un univers, il y a des types d'êtres vivants qui ont été inventés, les elfes, les nains, les hobbits. Je veux dire, c'est un livre qui vieillit bien, c'est en trois tomes, donc dans le fond en trois parties. Donc vous avez la communauté de l'anneau, les deux tours, puis le retour du roi. Parce que bon, un peu toute l'intrigue qu'il y a là-dedans, oui, c'est l'histoire de l'anneau, tout ça, mais c'est le royaume des hommes, hein, les hommes qui sont un peu en perdition dans ce livre-là, c'est ce qui est un peu la trame de fond de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et puis il y a le roi des hommes qui vit de manière cachée, recluse sous une autre identité. Est-ce que le roi des hommes du royaume du Gondor dans ce livre-là, est-ce qu'il va finalement se révéler au grand jour sa vraie identité? Est-ce qu'il va redevenir le roi des hommes pour vaincre les forces maléfiques des deux tours, d'une certaine manière? Je vous raconterai pas toute l'histoire, là. Il y en a qui vont dire, on sait c'est quoi Le Seigneur des Anneaux, mais bref, c'est ça. Si vous avez du temps à passer, c'est un excellent livre, plus dur un peu à lire peut-être, je dirais, là. C'est vrai que Tolkien, c'est un écrivain qui aujourd'hui serait extrêmement vieux s'il était pas mort. Même, je pense qu'il faudrait que je vérifie Tolkien est né en quelle année, mais je fais ça au même moment où je vous parle. Tolkien, il est né en 1892. Donc, oubliez ce que je vous dis. Tolkien, il serait mort, ça fait longtemps. Il est mort, d'ailleurs, à 80 ans, là, en des années 70. Puis le gars, c'est ça, c'est un génie, c'est un écrivain, un traducteur, un professeur d'université, un essayiste. Il a gagné plusieurs prix pour ses livres. Évidemment, il a fait beaucoup de choses, là, mais il écrit beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai pratiquement lu l'œuvre complète de ce bonhomme-là, mais en tout cas, ce qui était sorti au moment où je tripais beaucoup là-dessus, j'ai pas mal tout lu, je vous dirais, là. Mais grosso modo, c'est l'occasion, ça, vraiment, de s'évader. Vous êtes dans un monde qui existe même pas, dans un univers qui existe. C'est un peu comme tous ceux qui ont trippé sur Game of Thrones, ben, le maître à penser un peu de George Martin, ben, c'est plate, mais c'est Tolkien. Donc, il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties de là, là, l'univers un peu fantastique. Tout ça vient de là. Si vous voulez essayer Game of Thrones, essayez-le aussi. Moi, je suis rendu dans le quatrième tome. J'ai pris une petite pause, parce qu'à un moment donné, ça devient très long à lire. Seigneur des Anneaux, c'est moins long que ça à lire. Donc, c'est trois livres de... si je vous donne une approximation, là, c'est trois livres d'à peu près 600 pages. Donc, c'est long, c'est ardu, mais je pense que ça en vaut la peine. Puis c'est un univers pour s'évader complètement de tout ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace pour s'en aller ailleurs, puis pour carrément penser à d'autres choses que ce qui peut vous tracasser ou vous embêter. Une petite suggestion plus philosophique pour ceux que ça intéresse. J'ai pensé à ça dans les derniers jours parce que c'est venu d'une conversation qu'on avait, moi et ma blonde. C'est rare que je réfère à des livres comme ça, mais pour le moment, je pense que c'est... peut-être qu'il y a des gens qui ça va intéresser puis que ça peut vous amener ailleurs dans votre réflexion par rapport à comment est-ce qu'on doit se conduire, qu'est-ce qu'on doit faire. Aristote, qui est un philosophe grec qui est mort il y a au-dessus de 2000 ans, donc c'est même avant Jules César, avant l'Empire romain, tout ça. Donc c'est Aristote, c'était qui? Grosso modo, j'ai déjà parlé dans un podcast qui s'appelait La caverne de Platon. Donc Platon était le disciple de Socrate et Aristote, lui, est le disciple de Platon. Donc on voit un peu où ça se situe dans le temps. Donc il écrit un livre, Aristote, qui s'appelle Éthique à Nicomaque ou Éthique de Nicomaque. Puis pourquoi j'hésite entre les deux, c'est que ça dépend des traductions. Il y en a qui disent que cette mise à l'écrit-là, pourquoi il y en a qui l'appellent Éthique de Nicomaque, c'est que Nicomaque serait peut-être le grand-père d'Aristote et d'autres pensent que ce serait son fils. Donc dans un cas, ce serait l'éthique ou l'art de vivre de son grand-père ou de son père qu'Aristote mettrait à l'écrit, et dans un autre cas, ce serait la sienne pour léguer à son fils, pour lui dire, ben voici mon fils, comment la vie doit s'organiser, puis comment est-ce qu'on doit se comporter etc. Il explique là-dedans, c'est drôle parce que c'est un très très vieux livre, mais c'est un livre qui aborde des thèmes qui sont encore pertinents aujourd'hui. Ça aborde des questions. Tu sais, des fois, on regarde ça, la philosophie, la littérature, tout. Ça parle beaucoup de choses qui, on dirait que ça nous concerne pas du tout. OK, la Révolution française, blablabla. Mais lui, Aristote, il écrit sur ce qu'il voit, sur ce qui l'entoure, sur la société qui l'entoure. Puis vous pouvez lire ça aujourd'hui en dehors du fait que c'est assez dur à lire parce que c'est un français qui, tu sais, je veux dire, ils ont traduit ça du grec ancien pour vous amener ça en français ou en anglais, selon comment vous le lisez. Donc c'est plus ardu, c'est pas un roman, on s'entend, mais ça parle beaucoup de la conduite des hommes. Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la vie juste? Comment est-ce qu'on fait pour prendre plaisir à la vie? Comment est-ce qu'on devrait organiser notre vie? C'est quoi se comporter de manière morale? Donc, par exemple, dans l'histoire de la philosophie, il y a eu beaucoup de questionnements là-dessus. C'est quoi se comporter de manière morale? Est-ce que c'est faire comme tout le monde? Est-ce que c'est agir pour qu'on puisse vouloir que ce qu'on fasse, tout le monde le fasse? Est-ce que c'est ne jamais mentir, ne jamais pécher, ne jamais rien? Puis Aristote, il y a une réponse intéressante à ça. Il dit ce qui est moral, c'est le juste milieu. Donc, il appelle ça la vertu de la tempérance. Donc, c'est à l'époque, on parlait des vertus. Donc, ça veut dire des bonnes dispositions, de la manière de vivre la meilleure, etc. Donc, il disait, la meilleure chose, c'est la tempérance. Puis si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, c'est, mettons, ben vous avez quelqu'un qui est lâche, donc qui s'effondre devant la moindre difficulté. Vous avez quelqu'un qui a aucune valeur, qui est incapable de combattre n'importe quelle difficulté, puis qui est toujours en train de s'écraser. Ben lui, il va dire, ben ça, c'est quelqu'un qui est lâche. L'extrême opposé de ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est téméraire ou naïf, disons. T'sais, lui, il va affronter n'importe quel danger sans aucun problème, il se crisse des répercussions, il fait n'importe quoi, on lui dit de rester à domicile, il s'en va partout. Ben, moi, je l'aurais pas, moi, je suis correct, moi, je suis au-dessus de ça, moi. Bon, ben, lui, il va dire la vertu, puis le comportement normal, puis le comportement idéal, c'est-à-dire, c'est jamais un extrême ou un autre, c'est toujours un juste milieu entre deux extrêmes. Donc moi, je trouve que c'est une vision de la vie qui est intéressante. C'est simple, tout le monde peut le comprendre. Pensez à d'autres choses. C'est quelqu'un qui est égoïste à 100%, qui donne jamais, qui partage jamais, ou quelqu'un qui est complètement, comme on dirait, débonnaire, c'est-à-dire qu'il donne tout à tout le monde, il garde rien pour lui, puis il se met dans la merde à cause de ça. Donc il va dire, ben le juste milieu, c'est quelqu'un qui entre les deux, donne quand c'est le temps de donner et garde pour lui quand c'est nécessaire de le faire, t'sais. Donc je pense que c'est un petit livre intéressant. Ça se trouve aussi en livre audio, ça c'est libre de droit depuis ça, en fait je sais même pas s'il y a déjà eu des droits là-dessus. Moi j'ai une version ici de Flammarion. C'est comme je vous dis, c'est une petite lecture qui pas obligé, on peut lire juste quelques chapitres, donc il y a des chapitres là-dedans un peu par sujet, par thématique. C'est assez dense, mais ça parle là-dedans justement de toutes les problématiques que les hommes ont. Je pense que c'est normal de se retrouver là-dedans, puis de voir des parallèles avec notre monde moderne. C'est juste un peu, je l'ouvre en même temps que je vous parle, puis je regarde, puis tu sais, il dit craindre le redoutable est normal. Donc, si vous êtes pas lâche parce que vous avez peur de quelque chose dont on devrait avoir peur, là. Donc c'est il dit le vrai courage, c'est une moyenne entre deux excès. Donc je pense que c'est très éclairant, puis ça peut permettre des fois d'amener ailleurs du monde qui ont jamais pensé s'intéresser à ce genre de sujet-là. Dernier livre, et non le moindre, je me sens privilégié de vous le partager. J'en ai déjà fait mention dans le podcast. C'est le petit livre de notre ami Jerry, de Radio Pirate, qui a écrit son livre « L'aubergiste pour l'emporter ». pour emporter, c'est-à-dire, je ne veux pas rajouter de mots aux places qu'il n'y en a pas. C'est un peu un nouveau genre d'écriture. C'est, dans le fond, il a pris ses podcasts qu'il a fait sur. Vous pouvez écouter ses podcasts aussi sur Spotify partout. Vous pouvez. Vous allez voir en lisant ça que c'est. Personnellement, je trouve que les podcasts de l'aubergiste et le livre comme tel, c'est le meilleur moyen de s'en aller vraiment ailleurs. Moi, quand j'écoute ça ou quand je lis ça, je pense à rien. Ça parle de vin, ça parle de bouffe, ça parle de voyage, ça parle des petits plaisirs de la vie, ça parle de. Puis c'est fait avec le style de Jerry, avec sa simplicité, avec son goût des bonnes choses. Il y a quelques photos intéressantes de bouffe là-dedans. Il y a des anecdotes personnelles, il y a des petits poèmes, c'est vraiment un bon petit livre que vous pouvez vous procurer sur son site internet, là, jerrylaubergiste.com. Je sais pas si en ce moment il en envoie toujours, je pourrais pas vous garantir, mais ceux qui n'ont pas accès au livre, encore comme je vous dis, les podcasts sont là, l'essentiel du livre est dans les podcasts. Donc pour aujourd'hui, c'est ça, tout le matériel que je vous suggère, que je vous propose, c'est tout soit disponible sur podcast ou sur film ou sur en documentaire ou un petit genre de petit reportage, whatever. Donc, le livre de Jerry, c'est ça, si vous avez accès au podcast, allez au podcast. Sinon, ben dans le livre, comme je vous dis, c'est assez rapide à lire, vous pouvez même les relire. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est une lecture qui peut... c'est comme un peu des petites histoires. Donc, si vous êtes, je sais pas, vous êtes coincé, vous êtes en isolement ou vous êtes quelque part, vous pouvez pas trop sortir, vous cherchez quoi faire... Écoutez un podcast avec des amis, puis jasez-en, ça donne des sujets de discussion, ça permet de penser à autre chose, puis peut-être si vous avez des enfants, vous pouvez lire un chapitre à vos enfants. Moi, je pense que ça peut se faire aussi. Tu sais, dans le temps, quand j'étais petit, nos parents nous lisaient des histoires le soir. Ben, je veux dire, si ça s'est perdu, cette tradition-là, ça peut être quelque chose qui est à redécouvrir. Je pense que même les podcasts, il n'y a pas de raison pour laquelle les podcasts seraient réservés aux adultes puis que les enfants n'auraient pas le droit d'écouter des podcasts. Donc, c'est un peu un podcast, je vous le dis, j'ai complètement improvisé, là. J'ai pris des livres dans ma bibliothèque, je me suis dit, bon, ben, regarde, faut que je fasse de quoi. Il y a du monde qui ont besoin de se divertir. Puis regarde, vous pouvez recommencer au début des podcasts aussi, parce que là, je sais pas exactement de quoi je vais parler dans les prochaines semaines, comment l'actualité va tourner, etc. On va voir comment ça va, mais chose certaine, j'essaye autant que possible d'arriver avec des petites affaires nouvelles pour changer l'air un peu, là, Chris, là, faut pas, je veux dire, faut respirer par le nez, là, personne qui va se pendre, là, je veux dire, faut, puis tout ça va peut-être nous permettre de revenir à des valeurs humaines, là, les gens qui sont autour de vous, que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, dites-leur que vous aimez ça, les côtoyer, les voir, puis... tu sais, je veux dire, profitez de ce que vous pouvez profiter, puis amusez-vous de la manière que vous, tu sais, je veux dire, c'est le temps de commencer, c'est le temps de revenir aux cartes, c'est le temps de, ça durera le temps que ça durera, puis comme disait le philosophe Nietzsche que certains connaissent, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Donc, dans mon cas, j'ai pas l'intention de crever non plus, donc ça va, puis vous autres non plus, j'en suis certain, donc ce qui nous tue pas nous rend plus fort, gardez ça dans la tête, puis répétez-vous-les, ça va être un genre de mantra pour les prochaines semaines, pour les prochains jours. Fait que ça fait le tour pour aujourd'hui, un podcast un peu plus court, un peu improvisé, mais garde, je vais y aller de même pour le temps que ça va prendre, puis garde, j'espère que ça fait votre bonheur, puis que ça vous permet un peu de vous changer les idées. Ok, ciao tout le monde, bye!